Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Shalom Dijon, vous êtes dans votre émission Mémoire et Transmission. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Solène Lévesque et Monsieur Mourad Asfour, enseignants, qui vont nous parler d'un projet qu'ils ont conduit qui s'appelle le projet Kaléidoscope. Bonjour.
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 Madame Lévesque.
Le projet Kaléidoscope a eu lieu pendant 2 ans, entre 2019 et 2021. Et il avait pour thème l'étude de la co-construction des cultures juives, chrétiennes et musulmanes en Méditerranée médiévale, en lien avec le programme d'histoire et de MC de 5e. Et il avait pour but de mettre en relation 3 établissements scolaires aux profils différents. Donc un collège rural, le collège Lazare Carnot à Nolé, qui est à 80 km au sud de Dijon, le collège Jean-Philippe Rameau à la Fontaine Douche à Dijon, qui est un collège REP, qui appartient donc au réseau d'éducation prioritaire, et puis le collège Clos de Pouilly à Dijon, dans le nord de Dijon, qui est un collège plutôt favorisé avec une section internationale britannique. La première année, nous étions 3 établissements, et puis la deuxième année, nous avons continué avec le collège Rameau et le collège Clos de Pouilly, pour remettre en relation des élèves de 5e, toujours autour de cette thématique.
Vous avez parlé d'une notion de EMC, rappelez-nous ce que c'est.
Éducation morale et civique.
Que tous les enfants doivent avoir, c'est ça, c'est qui est obligatoire.
Tout à fait. Dans leur emploi du temps, dans les programmes d'histoire, géographie, EMC, il faut qu'on y consacre l'équivalent d'une demi-heure par semaine.
Alors comment s'est passée la mise en route de ce projet et quels étaient les objectifs, les premiers objectifs, même si ça a peut-être évolué dans le temps?
Eh bien, la mise en route s'est faite assez rapidement, mine de rien, parce que Madame Lévesque nous a contactés et nous avons répondu oui. Ce type de projet, nous, on ne peut dire que oui. Et on a défini les lignes directrices du projet et s'il y avait une ligne à retenir, c'était de faire travailler ensemble et de faire réfléchir ensemble des élèves de 5e sur des problématiques essentielles de la vie en communauté, sur la question notamment des préjugés, la lutte contre les discriminations, l'idée de savoir-faire société à travers, bien évidemment, un prisme historique en lien avec nos programmes.
En 5e, les enfants ont quel âge? Parce que je vais vous avouer que...
Ils ont 12 ans.
12 ans. Oui, donc ils sont encore très jeunes.
Ils sont encore très jeunes, ils sont encore, tributaires de la pensée familiale, ce qui est normal. Ils sont aussi en formation, hein, ils entendent des choses, hein, tout ne passe pas par ce que les parents disent, hein, ils entendent des choses à la télévision, le rôle aussi des téléphones, qui a bouleversé aussi les sources d'apprentissage de nos élèves. Et puis, y a nous, les enseignants, qui devons faire avec tout ça.
Alors, ce projet, les enfants sont volontaires ou c'est vous imposez ça à des classes type
Alors, ce sont des classes qui ont été choisies et à qui on a présenté le projet, chacun dans nos établissements, avec, pour ce qui est du Clos de Pouilly, la particularité d'avoir eu comme classe une classe internationale britannique. L'établissement a l'option... Mais seulement une classe ou deux contient cette option. Donc, l'objectif étant de mettre en relation des élèves au parcours ou aux origines diverses, on a souhaité que ce soit l'option internationale britannique qui soit sur le projet.
Oui, ça faisait partie de la stratégie pédagogique. Oui.
Tout à fait. Parce que en 5e, effectivement, les élèves sont tributaires de leur famille et ils sont aussi encore trop petits pour se déplacer seuls. Donc, ils sont très souvent entre eux. Et l'autre est un peu mystérieux. Et c'était l'objectif de faire en sorte que des élèves ayant le même programme, étant au même moment de leur scolarité, puissent découvrir l'environnement et le quotidien d'élèves qui sont en milieu rural ou en centre-ville ou dans ce qu'ils peuvent imaginer être un quartier et en parler.
Alors comment on fait pour rendre vivant et passionné des enfants sur le médiéval, enfin, ce qui paraît déjà quand même un projet assez extraordinaire. Et comment on les amène à travailler, pour aller où, enfin, comment tout ça est organisé, parce que j'imagine que c'est en plus des cours. Donc il faut que les enfants rentrent dans le jeu.
Il y a plusieurs possibilités. La première, quand on aborde la question de l'histoire médiévale, dans le choix des documents avec lesquels on va travailler, il y a la possibilité déjà de déconstruire des mythes que nos enfants ont, et nos élèves ont, hein, qui sont des mythes un peu véhiculés ça et là, de leur montrer par exemple que dans certains territoires du monde médiéval, et ben, des cultures ont vécu ensemble. Et bien sûr, en leur disant que tout n'était pas rose, il ne faut pas non plus idéaliser les périodes.
Tout à fait.
Tout n'était pas rose, mais tout n'était pas noir non plus. Et il y a toujours cet entre-deux qui est assez intéressant, parce que dans cet entre-deux, eh ben, émergent des personnalités, comment dire, troublantes, attachantes aussi. Nous, on a beaucoup travaillé, notamment sur tout ce qui est médecine, mathématiques en péninsule ibérique. Et là, on se rend compte qu'on a des médecins qui ont été musulmans formés par des médecins juifs, et ces mêmes médecins musulmans vont laisser traduire leur livre de médecine en latin par un traducteur qui venait des terres chrétiennes, et qu'il y a une diffusion. Et l'idée derrière, c'est que finalement, l'intérêt de tous ces cours, c'est de dire que le partage a toujours existé. Les sociétés ne vivent pas cloisonnées. Elles ne vivent pas sans contact avec les autres. Et c'est peut-être le grand challenge pour moi actuel, c'est de dire que d'arrêter d'entretenir cette idée que les sociétés vivent les unes à côté des autres sans jamais se rencontrer, sans jamais partager, et que l'autre est forcément étrange, voire pire, dangereux. Et nos élèves, mine de rien, le fait qu'on travaille différemment et qu'on n'est pas que sur du cours magistral classique, nos élèves sont demandeurs de ça. Rencontrer les autres pour aborder ces questions-là, je pense notamment à la visite du MAGE, hein, le musée parisien, c'était une très très belle expérience pour eux, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des points communs interculturels, et qu'il y a aussi des différences, et ces différences sont une richesse, mais ces points communs sont encore plus une richesse.
Alors comment on fait matériellement pour que les enfants se rencontrent, se libèrent des carcans, des habitudes, et produisent ensemble? Comment vous les amenez, et qu'est-ce qu'ils produisent ensemble?
Alors, on est parti en commençant par à présenter le projet à notre inspectrice pédagogique régionale pour avoir la possibilité d'adapter les programmes scolaires, puisqu'en classe de 5e, en histoire, on a un chapitre qui est appelé « Chrétiens et musulmans, des mondes en contact ». Donc, on a voulu rajouter la dimension juive. Et on a eu la possibilité de le faire. Et une fois qu'on a eu le côté pédagogique assuré, on a également présenté ce projet à nos chefs d'établissement respectifs pour qu'on puisse réaliser comme on l'avait imaginé ce projet, c'est-à-dire mettre en relation une fois par mois les élèves des trois ou des deux établissements dans un des deux ou des trois établissements engagés sur le projet.
Tous ensemble.
Tous ensemble.
Dans un espace commun.
Dans un espace commun.
D'accord.
Donc la première année, il y avait chaque mois, dans un des trois établissements, 100 élèves qui se rencontraient avec comme critère de constituer des groupes avec des élèves des trois établissements. Et à chaque fois, les élèves découvraient l'établissement. Pour voir leur environnement. Des élèves qui évoluent dans un établissement de 900 élèves allaient dans un collège rural où il y a 170 élèves. D'accord. C'est un choc. Et réciproquement, pour des élèves de milieu rural, aller dans ce qu'on imagine être un quartier, ça aussi, c'est un choc. Et c'est une première mise en relation. Ils étudient des mises en relation au niveau historique. Et puis ensuite, par l'intermédiaire d'intervenants extérieurs, ils créent ensemble des œuvres ou alors un blog, journal de bord. Et là, on a demandé un dessinateur de presse de talent, Thibaut Roy, de venir nous aider pour former, initier et former tous ses élèves à l'écriture journalistique. Et c'est vrai qu'il a été extrêmement précieux sur ce projet pendant ces 2 années. Car il les a initiés à l'interview, à la rédaction d'articles, au dessin de presse, qui est son cœur de métier. Et les élèves ont, pendant 2 ans, créé et entretenu un blog qui est encore visible et qui a été enrichi pendant 2 ans grâce à lui.
Très bien. Donc, donnez-nous peut-être un exemple de production qui, sur le moyen long terme.
Eh bien, il y avait un... Très belle présentation de photos, de photographies qu'ils avaient prises au fur et à mesure de leurs activités, commentées, et des photos aussi prises à Paris, lors de nos sorties à Paris, pour montrer comment l'art peut être source d'inspiration, puis source de questionnement aussi sur la société dans laquelle nous vivons. Et on avait eu de très belles photos, puis surtout de très bonnes analyses de la part de certains de nos élèves. Et ils se sont pris au jeu. Tout ça parce que c'est vrai que Thibaut Roy avait ficelé son atelier de manière très, très pédagogique et à la fois très exigeante. Enfin, était très exigeant sur le contenu à rendre. Et les élèves sont rentrés dedans parce qu'en fait, c'était une production qui était variée. Il y a de l'écriture, il y a de la photo, il y a du dessin. Et ils sont très sensibles au dessin et à la caricature. Ça nous a aussi permis d'aborder la question de la caricature et du statut de la caricature et du regard qu'on doit avoir et qu'on peut avoir vis-à-vis des caricatures. Nos enfants, enfin nos élèves sont demandeurs, hein. On traverse quand même une période assez compliquée sur ces questions-là. Et je dirais que Thibaut Roy, et puis l'ensemble des ateliers, mais surtout Thibaut Roy, a réconcilié quand même pas mal de nos élèves avec la caricature. Et sur la manière dont on doit la recevoir, la réception de la caricature. Et de sa diversité aussi.
Parce qu'il a également abordé son métier, la façon dont il l'envisageait, le message que ça peut porter. Et ça, les élèves, tout en apprenant à en faire, ont appris les motivations et la démarche du dessinateur.
Tout en apportant la nécessité qu'il y ait du deuxième degré, du troisième degré, et de prendre les images... très souvent, non pas de manière frontale, mais de se questionner sur ce qu'elles veulent, sur leur signification. Et ça, c'est un travail que nos élèves ont commencé dès leur plus jeune âge, mais qui au collège est fondamental, d'avoir une lecture extérieure des documents qu'on leur donne pour justement pouvoir en tirer les informations que ces documents nous délivrent, sans tomber dans le piège caractère brutal que peut avoir l'image, par exemple. Et là-dessus, c'est vrai que Thibaut Roy il a aussi une très jolie patte de dessinateur, hein, faut dire. Ses dessins sont très, très touchants, drôles, mais très riches et des fois un peu bousculants.
Il interpelle.
Voilà.
Mais il le fait de très belles manières. Mmh. Et ça a été un vrai plaisir de l'avoir sur ce projet pendant 2 ans.
Alors, comment vous avez permis, parce que j'imagine que tous les enfants n'étaient pas au même niveau, au même endroit, pas toujours d'accord, enfin, comme toujours.
Voilà.
Et comment vous avez construit des espaces où ils ont pu dialoguer librement, mais quand même avec toujours un objectif un petit peu pédagogique. Matériellement, comment on fait pour que ça soit vivant, que ça se construise?
Mais il y a eu des ateliers. Les journées, quand on se rencontrait, c'était des journées où les élèves étaient répartis dans des ateliers. Des ateliers avec un nombre d'élèves non démesuré, quoi, un petit nombre d'élèves issus des 3 établissements ou des 2 établissements, avec des niveaux différents. Et les attendus des ateliers, c'était pas des attendus, classiques, on va dire, dans une scolarité. Ce qui veut dire que n'importe quel élève pouvait y apporter, sa touche personnelle ou ses connaissances personnelles. Ça interpellait énormément de compétences. Et non pas que des compétences, purement intellectuelles, théoriques, ouais, ou d'écriture. Il y avait un peu de tout. Donc, chaque élève a pu se retrouver dans les ateliers. Peut-être pas tous. mais au moins une bonne partie des ateliers. Et on a eu des élèves, voilà, qui, peut-être, voilà, j'ai du mal à écrire, à faire un commentaire, mais je sais prendre des photos. Je sais créer un slogan. Je sais dessiner ou faire un tag ou faire une illustration. Et on a eu ben, ce concours là de compétences que chacun a et que chacun a mis sur la table du travail collectif, on va dire.
Donc ce travail a fait l'objet d'une production, enfin de quelque chose de manière à ce que les élèves puissent visualiser ce qu'ils avaient fait les uns les autres et qui peut être montré donc à l'institution scolaire, j'imagine, mais au-delà, ou est-ce que c'est resté uniquement dans le cercle scolaire ?
Alors, il y a eu plusieurs productions. Ce projet a été fait en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe à Paris. Et il nous a permis, ce partenariat, de rentrer en relation avec un street artiste qui s'appelle Combo et qui a rencontré les élèves des trois établissements pour co-créer une fresque kaléidoscopique qui illustre la diversité des élèves. Et cette fresque a été exposée pendant plusieurs mois à l'Institut du Monde Arabe. Donc ça, c'est une première production. Il y a eu également le blog Journal de bord, qui a été tenu par donc Thibaut Roy. Et puis, l'année suivante, il y a eu deux productions. Il y a eu un livre d'artiste de 150 pages qui regroupait tous les travaux des élèves qui ont été faits dans les différents ateliers. Donc des ateliers d'écriture, des dessins, de la calligraphie et puis de la linogravure où les élèves ont dû créer des symboles avec les professeurs d'art plastique, les symboles de la rencontre. Et puis des photos, puisqu'il y a un autre intervenant qui s'appelle Arnaud Finistre, qui est venu photographier les élèves et faire travailler les élèves sur les émotions que l'on peut ressentir lors d'une rencontre. Et les élèves devaient les représenter. Et toutes ces émotions ont ensuite fait l'objet d'une action de groupe Inside Out qui a recouvert la Porte Guillaume à Dijon. Pendant 5 semaines.
Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes un certain nombre à avoir vu cette exposition sans savoir du tout de quoi il s'agissait.
Ah, il y avait un petit panneau explicatif.
Oui, mais bon, en passant, oui, c'est vrai. C'est le mérite d'exister, d'ailleurs, même si on n'a pas fait très attention.
Ça a interpellé énormément de Dijonais, c'est vrai, et c'était en effet un des objectifs. Et qu'on se questionne et qu'on voit ces 130 portraits sur la Porte Guillaume. Pendant 5 semaines.
Alors, avant peut-être de revenir sur l'évolution des jeunes, etc., dans cette belle aventure, est-ce qu'on peut encore trouver ces documents et où, si ça intéresse des auditrices ou des auditeurs ?
Eh bien, chaque collège a gardé une partie de la fresque monumentale faite avec Combo. Je pense que nos deux collèges, ben le mien et le tien, on a gardé aussi une partie du drapage, on peut dire.
Oui, des bâches, en
ouais,
fait.
Des bâches où se trouvaient les photos des élèves et puis des intervenants. Et puis, on a aussi le cahier de route et le journal du Kaléidoscope 2. Ça, c'est conservé. On a donné un exemplaire à chacun de nos élèves.
D'accord.
Hein. Alors, et à leurs parents aussi, parce que les parents... On le dit pas assez, mais les parents étaient derrière nous.
Oui.
Les parents étaient heureux. Et se mettre dans la tête d'un enfant de 12 ans qui voit sa tête en grand format dans un endroit de Dijon, qui n'est pas n'importe quel endroit historique en plus. Hein, l'endroit a été choisi, on avait longuement réfléchi, Madame l'évêque avait longuement aussi travaillé l'historique de ce lieu. Et ben, ça a fait sens. Hein. Ça a fait sens, parce que c'est quand même un point de rencontre essentiel. Et justement, nos élèves se sont rencontrés. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que nos élèves ont témoigné aussi de... Et on dit crûment, c'est des fois avec leurs mots. Je pensais que les gamins du Claude Pouilly, c'était que des petits riches, limite chaussures à glands, vous voyez. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils aiment les mangas, ils écoutent les mêmes musiques, ils aiment les mêmes marques de vêtements, ils ont plus ou moins les mêmes aspirations dans la vie. Et au final... certaines barrières n'existent que parce qu'on aime bien les mettre, mais si on les laisse parler entre eux, on se rend compte, bah, Voilà, on va avoir une discussion manga, une discussion basket, une discussion
musique.
Et puis ça reste des enfants de 12 ans qui partagent le même univers, en fait.
Alors, vous avez peut-être touché du doigt la question si des prophéties autoréalisatrices négatives, parce qu'il y a des endroits où les enfants ont relativement confiance dans leurs projets liés à l'école, et d'autres endroits où ils se censurent et pensent qu'ils ne sont pas faits pour... même s'ils ont les moyens intellectuels et comme et ben, tous les enfants. Est-ce que c'est une question essentielle, ça.
C'est une question essentielle, et c'est justement par ce type de projet qu'on arrive aussi, entre autres, à dire à nos élèves, voyez, vous êtes capables de produire. Et vous êtes capables de produire avec d'autres élèves que vous avez peut-être mis sur un piédestal parce que voilà, hein, il est vrai qu'on est dans des sociétés qui... Enfin, une société qui crée de la frustration. Très intéressant d'étudier aussi par quel biais, mais... Et nous, l'école républicaine, celle à laquelle on croit, justement, c'est de dire, mais non, vous avez la même possibilité que les autres, les mêmes capacités que les autres. Il y aura du travail à fournir, comme tout le monde. Et vous allez le fournir, et regardez, vous êtes capable de faire avec eux. Et eux sont capables de faire avec vous. Et pour beaucoup d'élèves, ce discours fonctionne. Ça nécessite de notre part, et puis nous, enseignants, de nos directions aussi respectives, et puis des parents, voilà, d'être derrière eux, ça c'est évident. Mais ça paye. Et c'est à partir du moment où on baisse les bras et où on dit, ben non, de toute façon, c'est grillé, vous n'y arriverez pas, de toute façon, l'école va juste reproduire les inégalités. Oui. Si on tient ce discours-là, on n'arrivera pas.
Dans un pays qui est obsédé quand même par la thématique de l'égalité plus et de la reproduction, on n'en sort pas. Enfin, le schéma de Bourdieu, on n'en sort pas actuellement, malheureusement. Alors, il y a un très beau livre de Norbert Alter qui vient de sortir, qui est un gamin des rues, qui montre comment il y a de la reproduction. C'est compliqué, évidemment. Mais qu'on n'est pas forcément assigné à résidence, c'est que par les rencontres, par le travail, par l'enseignement notamment, par les enseignants, parce que l'enseignement, c'est les enseignants, c'est des rencontres, c'est avec des personnes, il y a des choses qui peuvent bouger et il y a énormément de gens qui bougent. Donc on a des représentations qui ne correspondent pas forcément à la réalité, enfin, ou réalités multiples en tout cas.
Puis la réussite, ce n'est pas elle peut être aussi faite ailleurs. L'école apporte des connaissances essentielles, une instruction essentielle.
Des bases, oui.
Des bases essentielles, mais de voir des élèves prendre du plaisir à dessiner et de se dire que cet élève se dit peut-être, tiens, et si j'en faisais quelque chose plus tard ? Parce qu'on a des gamins qui se sont révélés, qui n'avaient pas forcément envie qu'on voit leur capacité de dessin ou leur capacité de chant, notamment pour d'autres projets auxquels je pense, et qui sont un peu timides là-dessus, parce qu'on ne valorise pas aussi le travail, enfin, on ne valorise pas assez, je dirais, le travail manuel, et de se dire qu'on peut aussi réussir en étant très bon dessinateur, en étant très bon musicien, en étant ci, en étant ça. L'école, c'est essentiel. Et l'école, justement, elle est là pour montrer que la réussite, elle est diverse aussi. Et que les chemins de réussite, eux aussi, sont divers.
En tout cas, des expériences comme celle de Xavier Niel à Paris, l'atelier 21 ou d'autres, qui montrent que des gens qui ont décroché il y a très longtemps, mais qu'on continue à vivre, donc à lire, à penser, se récupèrent très facilement à travers notamment l'informatique, les maths, enfin, etc.
Bien sûr.
Et reprennent un chemin de la réussite qui leur convient, en tout cas. Oui. Alors, comment vous pouvez mesurer un petit peu les effets, à la fois dans les institutions, dans ces collèges respectifs très différents en termes de recrutement, et puis par rapport à des parcours individuels, aujourd'hui qu'il y a un petit peu de recul, un petit peu de temps qui est passé, comment vous regardez ce que vous avez fait, quel retour vous avez, et en quoi ça vous encourage à multiplier, peut-être de manière puissante, ce type d'expérience ?
Moi, je vous dirais que ce type d'expérience est à refaire quand un élève vous dit « Ah, monsieur, j'avais des préjugés, mais en fait, je m'étais trompé. » Et là, on lui dit « Mais tu n'avais que 12 ans. Tu es excusable à 12 ans d'avoir des préjugés et de te tromper. Tu n'as que 12 ans. » Mais que cet élève qui aujourd'hui a 15, 16 ans et se dit « Ah oui, ben, j'ai fait du chemin. Je me suis rendu compte que ce monde est divers et que cette diversité... Et c'est aussi une force, et que je dois vivre avec des gens qui ne sont pas moi, qui ne fonctionnent pas comme moi, qui ont des origines différentes, des coutumes différentes, des religions différentes, et qu'au final, si on partage les uns les autres, ou ne serait-ce que si on accepte que l'autre puisse exister sans être comme toi, voilà, moi quand j'ai des élèves qui me font ce retour-là en me disant « c'était super, on a rencontré du monde, on a... » briser certains préjugés, je recommence 10 fois s'il le faut. même si ça nous a coûté des heures et des heures et des heures de travail, et que Madame l'évêque a énormément travaillé, mais ce sont à nous enseignants nos petites joies en fait. Puis après on est quand même bien tombé parce qu'on avait aussi nos directions respectives qui ont été derrière nous, et moi je le dis, voilà, hein, je salue Monsieur Brassac qui était principal au moment du Kaléidoscope 1, et je salue Monsieur Nem qui était principal, enfin qui est encore mon principal, mais qui était là pour le Kaléidoscope 2, d'avoir été derrière nous, d'avoir cru en nous, dire allez, on vous fait confiance, faites quelque chose de vos idées. Et puis quand on a des parents au moment de, comment dire, du dévoilage des photos à la porte Guillaume, qui nous disent merci, et des gamins qui nous disent merci. Bon.
Vous avez su les convaincre quand même, vos directions respectives.
Oui.
Aussi.
Oui, ça a été assez facile, oui. quand on est peut-être aussi sûr de nous et de l'intérêt que ça peut avoir pour les élèves et la communauté éducative. On a une direction qui nous dit oui, bien sûr, on vous aidera autant qu'on pourra. Après, ce sont les enseignants qui sont au front, mais on a toujours eu cet accord et ce soutien. Et puis nous, en tant qu'enseignants, on a aussi énormément appris. On a énormément appris de nos élèves, des différents intervenants, de nos collègues, parce qu'on a d'autres façons de travailler, on s'adapte aux élèves qu'on a en face de nous. Et puis, quand on sort nous-mêmes de nos salles de classe, on découvre un autre fonctionnement et on s'enrichit les uns des autres. Et c'est ça qui est agréable et qui permet de surmonter de la fatigue, parfois des mauvaises nouvelles ou des déconvenues. Et, parce qu'on sait où on va, on est ensemble, on apprend à travailler ensemble. Et ça fait des merveilleux souvenirs et ça nous enrichit aussi.
Oui, ça décloisonne beaucoup de choses.
Quoi. Énormément.
Ça fait des liens,
oui.
Alors la question qu'on se pose toujours de l'extérieur, il y a des expériences extraordinaires contrairement à ce qu'on a l'éducation nationale dans différents domaines, et ça c'est pas depuis hier matin. Et comment se fait-il que ces expériences qui montrent qu'il y a d'autres chemins pédagogiques pour que les enfants s'ennuient pas, que les enfants rejettent pas l'école, parfois ils ont des bonnes raisons, enfin. De les rejeter dans leur histoire personnelle. Hein. Mais comment faire pour que l'ensemble des institutions scolaires s'organisent autrement pour mieux correspondre aux besoins des enfants d'une manière générale, dans cette dimension collective dont vous avez parlé, qui me semble essentielle. Moi, pour nous, c'est une vraie question de l'extérieur. C'est pourquoi on ne généralise pas des expériences réussies. C'est ce qu'on appelle le retour d'expérience. Et je peux vous dire que dans d'autres domaines que je connais, les retours d'expérience, pareil, ne servent pas à grand-chose. Il n'y a que dans l'armée, et ça je pourrais vous le démontrer, qu'il y a des retours d'expérience qui ont un réel effet, parce qu'il y a peut-être de l'urgence d'une autre nature. Mais il y a des tas d'institutions où il y a des gens qui travaillent énormément, qui sont extrêmement doués, qui travaillent ensemble, enfin qui correspondent au schéma que vous venez de développer. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à bouger les lignes et qu'on se retrouve dans cette situation qui est quand même actuellement très difficile pour beaucoup d'élèves?
C'est peut-être une question de moyens. On a des programmes, il y a un socle qu'il faut qu'on doit transmettre à nos élèves. Et ces expériences, c'est vrai, vont au-delà de ce socle. Elles sont basées sur le volontariat. Et c'est parfois difficile de tout concilier. Quand on est enseignant, nos directions savent que ça fonctionne, puisqu'elles le voient. Mais c'est difficile. Il y a aussi une question de budget, parce que ça nécessite de faire venir des personnes de l'extérieur. Et on peut le faire un an, deux ans. Et puis après, il faut laisser aussi la chance à d'autres initiatives d'être réalisées. Et ça peut être une piste d'explication.
Après, on peut quand même, je pense, être assez, comment dire, positif pour l'avenir, parce que mine de rien, depuis une dizaine d'années, on a de plus en plus d'appels à projets transdisciplinaires, pluridisciplinaires, avec des intervenants extérieurs, auxquels là les enseignants peuvent s'y mettre ou pas, hein, c'est aussi la volonté de chacun, mais c'est en train de changer, parce que même beaucoup d'enseignants veulent renouveler leur pratique, et parce qu'aucun enseignant aujourd'hui a envie d'enseigner avec une classe qui ne bouge pas pendant une heure, où il n'y a aucune interaction, aucune production, où on n'est que sur de la transmission verticale. Enfin, les générations d'enseignants actuelles, c'est des enseignants qui sont au courant de toutes ces expériences-là et qui font, qui petit à petit, peut-être que dans 10 ans, ça sera différent. Il faut peut-être laisser le temps, comment dire, de la transformation. C'est assez récent, mais quand je vois certaines réalisations dans d'autres académies, moi, je reste assez confiant sur l'avenir. Voilà. Après, ça nécessite bien évidemment un soutien logistique, matériel, sans faille de la part de nos rectorats, du ministère, mais voilà, tous ces organes, toutes ces institutions sont aussi le reflet d'une société qui est en évolution, donc il n'y a pas de raison qu'elle reste immuable sur certaines questions.
Voilà, je vous remercie en tout cas pour ces premières pistes de travail et de réflexion, parce que ce n'était pas évidemment l'endroit, enfin, cette émission n'est pas consacrée à ces questions-là, même si on les sent à travers ce que vous faites. Si on revient sur l'impact par rapport aux élèves, est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres exemples? Vous parliez effectivement de cette capacité à faire société, la lutte contre la fin de certains préjugés, le sentiment d'appartenance, l'envie de progresser, etc. Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui vous ont traduit un petit peu l'intérêt de ce travail?
Je me permets de rajouter, oui, sur la question de la discrimination, là, souvent, c'est aussi la société actuelle qui fournit ça, mais que quand on est victime d'une discrimination, il n'y a que moi, les autres ne sont pas victimes. Et donc, beaucoup de personnes se cachent dans leur... se protègent des discriminations dont ils sont victimes ou dont ils pensent être victimes. Mais au final, ils se sont rendus compte, nos élèves, que ouais, les discriminations, mais tout le monde en est victime. Tout le monde peut en être victime. Que bien sûr qu'il y a du racisme anti-noir, bien sûr qu'il y a du racisme anti-maghrébin, mais il y a aussi du racisme anti-juif, il y a aussi de l'homophobie, il y a aussi de la grossophobie, il y a aussi énormément, de discrimination. Et l'intérêt de ce projet, c'est pas de hiérarchiser les discriminations. C'est se dire qu'elles existent. Elles existent. Mais que tout doit être combattu avec la même énergie, la même vigueur, avec les mêmes convictions, et être capable de sortir de ses propres souffrances, et de dire que l'autre aussi peut souffrir. Et quand on a eu des élèves quand on a fait la visite du mage, avec après quelques explications, puis ils grandissent, parce qu'ils voient ça, on les en cinquième, puis après en troisième, ils abordent certains sujets d'histoire, plus dramatiques, et ils disent, ah oui, effectivement, la haine, la discrimination, ça peut conduire à telle ou telle chose horrible dans l'histoire. Et nos élèves, moi j'entends aujourd'hui, vu ce qui se passe actuellement, notamment dans les quartiers populaires, certains arrivent à penser que dans certains quartiers populaires, les gens n'ont pas de cœur, n'ont pas d'émotion. Mais non, au contraire, ils ressentent les choses. Ils les ressentent, ils les expriment. Et nos gamins ont soif, il y a bien une chose que je pourrais noter, de justice sociale. Ils sont extrêmement, extrêmement, demandeurs de justice sociale. Et souvent, quand un élève se comporte mal ou autre, souvent, c'est parce qu'il pense être victime d'une injustice. Et c'est à nous, derrière, de dire, de pointer du doigt l'injustice en question, si elle est vraie, si elle est fausse, de mettre des mots là-dessus, et c'est tout le travail pédagogique que l'enseignant doit donner. Parce que, mine de rien, cet élève, il est dans une société. Ce que vit cet élève, c'est ce que vit notre société actuelle. Nous, on le récupère comme un boomerang dans nos salles. Alors, peut-être en fonction des établissements, c'est différent, mais moi, je sais que dans le collège où je suis, au collège Rameau, nos élèves posent beaucoup de questions. Ils veulent essayer de comprendre. Et des fois, c'est maladroit. C'est maladroit. Des fois, ils disent des choses qui sont maladroites, qui pourraient nous choquer en tant qu'adultes. Ils disent, non, on ne peut pas dire ça. Mais on est des adultes. Donc oui, entre adultes, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça comme ça. Mais à un enfant de 12 ans, on lui explique. On lui explique que voilà, tu peux pas dire ça. C'est pas parce que toi, tu sens que tu es victime d'une discrimination que ça te donne le droit d'en perpétuer une autre verbalement, déjà. Et c'est tout un travail de déconstruction et puis d'identification aussi qui est très dur à faire. Et ça, c'est les gamins de 3e, en fait. Ceux qu'on a eu en 5e, qui arrivent en 3e, se disent, ah oui, effectivement... Voilà, je décloisonne ma propre petite histoire personnelle et je vois qu'à l'échelle du monde, c'est pas cool, quoi. L'histoire n'a pas... est remplie de, comment dire, de moments tristes et douloureux. Et la question que je pense qui a travaillé notre projet, hein, c'est ces élèves d'aujourd'hui, bah, c'est les adultes de demain. Hein, on travaille sur la question de la transmission et on avait abordé, tu te rappelles, cette question-là avec certains officiels. C'est-à-dire que finalement, combien d'élèves on a un peu l'influence qu'on a sur nos élèves, ce type de travail, ce type de rencontre, l'influence que ça a sur nos élèves. Bah, peut-être qu'on a, comment dire, sauvé un pan de la société grâce à ça. Et j'en suis même persuadé. Et là-dessus, ça nous motive. Mais, comme je disais tout à l'heure, il faut des fois laisser le temps au temps et laisser le temps à ce que nos élèves emmagasinent, ingurgitent, digèrent, et puis que ça puisse éclore en eux, quoi. Et globalement, pas quantifié, mais ça, c'est le projet qui marche. Projet qui marche. Et donc à refaire.
Madame Lévesque.
Et donc à refaire, oui. Un des objectifs de Kaléidoscope tient au moment où il intervient dans la scolarité des élèves. On est en cinquième. Et commencer la mise en relation des différentes cultures sous un angle positif permet ensuite, en troisième, quand on étudie les génocides avérés du XXe siècle, d'avoir peut-être de la part des élèves un regard un peu différent. Parce qu'ils auront travaillé la mise en relation. C'était l'objectif, c'était montrer qu'on peut être de cultures différentes et voir qu'on peut créer des choses ensemble, qu'à travers l'histoire, il y a des exemples de co-construction. Qu'on en ait les héritiers sans même qu'on s'en rende compte, pour que au moment où on fait la montée des totalitarismes, on fait l'antisémitisme en classe de 3e, ils se rappellent qu'il y avait des moments avérés dans l'histoire où ces cultures, au contraire, créaient des choses ensemble plutôt que se séparer. C'est peut-être en 3e que des élèves peuvent mesurer tout le chemin qu'ils ont parcouru, l'intérêt d'un projet tel que celui-là en cinquième, au-delà de ce qu'ils ont pu déconstruire le moment venu. En fait, ça se fait sur la longue durée.
Donc, si je comprends bien, cette dynamique va se continuer, va se poursuivre à travers d'autres projets dans ces différents collèges et lycées, semble-t-il. En tout cas, à Dijon, je sens une belle énergie, puisque j'ai rencontré différentes personnes qui sont vraiment très motivé, très engagé, ce qui est quand même extrêmement encourageant. Bon, là, ce matin, on a parlé du projet Kaléidoscope. Donc, il y a eu deux étapes, hein, deux années de suite, avec Madame Solène Lévesque et Monsieur Mourad Asfour. Si les gens, les auditeurs, auditrices veulent des documents, en fait, qui nous contactent, nous, à Radio Shalom Dijon, puis on les mettra en relation avec vous. Je pense au carnet de bord.
Avec plaisir. Il reste un certain nombre de carnets de livres d'artistes qui sont disponibles, bien sûr, et à la disposition de toute personne que cela peut intéresser.
Tout à fait.
Parce que c'est important qu'il y ait des traces, parce que ce que vous dites est très fort. Mais alors, les élèves ont des traces dans leur mémoire, etc. Mais c'est important qu'il y ait des traces matérielles d'enregistrements, de photos, de choses auxquels les individus qui ont participé peuvent recourir, mais que l'ensemble des gens que ça intéresse puissent y parvenir. Quoi. Ça me paraît important.
Et le blog Journal de bord est toujours accessible. C'est projetkaléidoscope.com sur lequel on peut aller tous les articles qui ont été écrits par les élèves avec l'aide de Thibaut Roy, un véritable ornithorynque pour nous. Oui. Et sont disponibles avec les dessins, avec les photos et tous les lieux où ils sont allés et tous les intervenants qu'ils ont pu rencontrer.
Donc ce matin, on a parlé de ce travail qui était sur trois collèges. Donc le collège Rameau, qui est dans le quartier de Fontaine-Douche, c'est ça physiquement. Le collège Clos de Pouilly, c'est ça le nom, donc dans le nord de Dijon.
Tout à fait.
Et un collège rural.
Le collège Lazare Carnot à Nolay. Pour la première année.
Au sud de la ville de Dijon.
Tout à fait.
En zone rurale. Après Beaune.
Ouais. Après Beaune.
D'accord. Bien, donc nous allons arrêter là cette rencontre consacrée à un projet transdisciplinaire et trans-collège, en quelque sorte. Nous étions donc avec Mme Solène Lévesque et M. Mourad Asfour. dans notre émission Mémoire et Transmission sur Radio Shalom Dijon. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.